14h.
Avez-vous déjà rêvé de voler avec un goéland, vivre à l'année dans la forêt, parler avec des arbres, ou avec une rose, ou un serpent, et ramoner des volcans, parler jardinage, apiculture avec un romain de l'époque de César? Du lundi 23 au vendredi 27 décembre, de 9 à 10 heures, on s'envole en compagnie des Hobbits, de Jonathan Livingstone le goéland, de Walden ou du Petit Prince. Je lis pour vous des pages qui font rêver, qui nous amènent loin. On réécoute les grands classiques dans La Petite Compagnie, sur RTS Espace 2 et en replay, bien sûr. Joyeuses fêtes!
Tournée romande, Antonin Scherrer.
Quatuor de Haydn par les Belenus à la Schubertiade de Bienne, Kindertotenlieder de Mahler dans une lecture historique proposée par Dietrich Fischer-Dieskau, Paul Kletzky et l'orchestre de la radio bavaroise en septembre 1958 à Montreux, sixième sonate pour violon et clavecin de Bach, sixième symphonie de Dvorak dirigée par Jerzy Belohlavec, également à Montreux, et enfin Lied de Schubert par Marc Padmore et James Baillieu à Verbier. Vous avez bien fait de choisir Espace 2 pour mettre de l'harmonie dans votre après-midi. Martine Guerce et Yann Nering à la programmation. On est parti pour 2 heures de captation live réalisée dans toute la Suisse romande. On commence donc ce voyage à Bienne en septembre 2015 lors d'une des très riches Schubertiades d'Espace 2 à l'église du Pasqua. On a rendez-vous avec les Belenus pour un fragment de quatuor de Haydn.
Thank you.
Mm-hmm.
un fragment de quatuor à cordes en ré mineur signé Joseph Haydn et le quatuor Belenus pour l'interprétation. Une captation de Jan Nering et de Blaise Favre réalisée le 6 septembre 2015 dans l'église du Passoire de Bienne dans le cadre de la Schubertiade d'Espace 2. L'histoire à notre porte avec cet enregistrement de plus de 60 ans des fameux Kindertotenlieder de Gustav Mahler, réalisé par ce qui s'appelait alors Radio Lausanne le 9 septembre 1958 à la salle du Pavillon de Montreux dans le cadre du Septembre musical. Sur scène, le grand baryton Dietrich Fischer-Dieskau, escorté par Paul Klietzky, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. Ces chants sur la mort des enfants ont été composés sur des poèmes de Friedrich Rückert. La composante littéraire est omniprésente chez Mahler, à l'image de beaucoup de romantiques allemands, pour sa Schumann et à sa passion pour Jean-Paul. Ce n'est pas un hasard si ces deux premières œuvres importantes ne sont pas des symphonies, mais des lieder avec orchestre. Les Lieder eines fahrenden Gesellen, chant d'un compagnon errant, dont trois des quatre textes sont dus à la plume même de Mahler. Et puis les Lieder nach Gedichten aus des Knaben Wunderhorn, chant d'après des poèmes du corps enchanté de l'enfant, écrits sur des textes traditionnels allemands. De ces derniers, Mahler tirera plus ou moins directement des pans entiers de plusieurs de ses symphonies avant de remettre l'ouvrage sur le métier au début du XXe siècle, à la suite de la rencontre déterminante avec l'œuvre poétique de Friedrich Rückert, dont il tirera les cinq Rückert-Lieder et justement les bouleversants Kindertotenlieder. Vous pouvez s'imaginer, durant la phase de composition, qui s'échelonne entre 1901 et 1904, qu'il allait lui-même vivre l'expérience atroce de devoir mettre en terre son propre enfant, celle-là même qui avait conduit Rückert à coucher sur le papier 428 Kindertotenlieder. Sa première fille, Anna Maria, meurt en effet de la scarlatine en 1907, plongeant le couple dans une grave crise. Alma lui reproche d'avoir en quelque sorte provoqué le destin en écrivant de telles pages. Les cinq Kindertotenlieder de Gustav Mahler, les chants sur la mort des enfants, sur les poèmes de Friedrich Rückert, ici ciselés par Dietrich Fischer-Dieskau, Paul Kletzky et l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise, en concert le 9 septembre 1958 à la salle du pavillon de Montreux, dans le cadre du Septembre musical. Votre tournée romande sur Espace 2 qui vous propose d'enchaîner avec Jean-Sébastien Bach et la sixième et dernière de ses sonates pour violon et clavecin, sonate en sol majeur BWV 1019. Des sonates qui voient probablement le jour durant les années heureuses passées à la cour du prince Léopold d'Anhalt-Köthen entre 1717 et 1723. Bach y bénéficie d'un orchestre professionnel de premier plan. Le prince lui-même excelle, dit-on, dans l'art du violon. Toutes les conditions sont réunies pour voir couler sous sa plume les plus grands chefs-d'œuvre de son legs instrumental, concerto brandebourgeois, concerto pour violon, suite pour orchestre, sonate. Johann Nicolaus Forkel, le premier biographe de Bach, prend conscience de l'importance de ses sonates dès le début du XIXe siècle. Voici ce qu'il en écrit. Elles sont fuguées d'un bout à l'autre et renferment même des canons pleins de caractère et de naturel, dialogués par les deux instruments. Il faut un maître pour jouer la partie de violon, car Bach connaissait les ressources de cet instrument et l'épargnait aussi peu qu'il le fait du clavecin. Fermez les guillemets. À l'exception de la sixième, qui expérimente de nouvelles pistes d'organisation formelle, les cinq premières sonates sont construites selon le modèle traditionnel de la sonate d'église établie par Corelli. Héritier des grands maîtres d'Allemagne du Nord, Bach élargit toutefois le canevas pour ajouter à la mélodie latine l'épaisseur du contrepoint germanique. La fusion est éclatante. Sans doute ravi du résultat, il révise à deux reprises au moins le corpus, une fois pour les concerts du Collegium Musicum qu'il anime à Leipzig et une fois à la toute fin de sa vie. Contrairement à de nombreuses pages de musique de chambre aujourd'hui disparues ou fragmentaires, il nous est parvenu en plusieurs copies de très belles factures en plus, témoin du succès de sa diffusion à l'époque déjà. En 1774, soit 24 années après sa mort, son fils Carl-Philippe Emmanuel écrit à Forkel. Ses sonates sont parmi les meilleurs ouvrages de feu mon père. Elles sonnent encore aujourd'hui fort bien et me font grand plaisir, bien qu'elles aient plus de 50 ans. Il y a là quelques adagios que l'on ne saurait composer aujourd'hui de manière plus chantante. Fermez les guillemets. Des compliments qui ont d'autant plus de valeur que Carl-Philippe Emmanuel a définitivement tourné la page du baroque pour poser les premières pierres du romantisme. On écoute Chouchane Cyranocion et Benjamin Allard au clavecin en concert le 15 avril 2018 en l'église des Capucins de Fribourg où ils étaient les invités des concerts de l'ADMA, l'association pour la découverte de la musique ancienne.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach est la sixième et dernière de ses sonates pour violon et clavecin, sonate en sol majeur BWV 1019, dans une lecture de Shushan Cyranossian et de Benjamin Allard, en concert le 15 avril 2018 en l'église des Capucins de Fribourg, invité des concerts de l'ADMA, l'Association pour la découverte de la musique ancienne. Sur place pour Espace 2, il y avait ce soir-là Yann Nering à la régie et Hervé Mermillot à la prise de son. Votre tournée romande qui vous propose de retourner à Montreux, mais beaucoup plus proche de nous qu'avec Dietrich Fischer-Dieskau tout à l'heure, et pas dans la même salle, puisque dans l'intervalle, le magnifique Auditorium Stravinsky a vu le jour le 2 septembre 1996, toujours par contre dans le cadre du septembre musical. On a rendez-vous avec l'excellente Philharmonie tchèque et Jiří Belohlavec dans leur répertoire d'élection Antonín Dvořák et sa sixième symphonie, symphonie en ré majeur opus 60. Composée entre août et octobre 1880, elle est publiée pour la première fois comme sous le nom de symphonie numéro 1, car c'était effectivement la première jouée et publiée en dehors du pays natal du musicien. Elle est dédiée au chef d'orchestre allemand Hans Richter, qui demanda à Dvorak de composer une symphonie pour l'Orchestre Philharmonique de Vienne, qui ne la joua d'ailleurs jamais sous la direction de Richter, probablement en raison d'un sentiment anti-tchèque.